et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog minterdial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue.
Bonjour Jean-François. Alors Jean-François, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, pendant que je travaillais avec Red Cat, me semble-t-il. Tu es du Nord, enfin tu habites au Nord. Raconte-nous qui tu es, ce que tu fais et quel est ton état d'esprit.
Alors, je suis Jean-François Dino, j'ai 42 ans la semaine prochaine. Je dis plus que j'ai 41 ans, je dis que j'ai 42.
T'as 39 ans encore.
Comment ?
On dit souvent, tu gardes 39 ans.
Oui, on va le dire comme ça. Je suis effectivement originaire du Nord. J'ai fait ma carrière j'ai commencé dans le monde du conseil. Ensuite, j'ai fait 10 ans dans le groupe Red Cat, donc la vente à distance du groupe PPR Kering, où je suis un papy du web et de l'e-commerce, où j'ai développé les sites e-commerce, notamment de marques comme Verbedé. Et puis j'ai eu la responsabilité e-commerce du groupe, où je me suis occupé des marques aux US, en Scandinavie et puis en France. J'ai ensuite accompagné pendant 5 ans un entrepreneur incroyable qui est Michel Leclerc, le fondateur de Decathlon. Je l'ai accompagné dans sa holding personnelle d'investissement dans des domaines du loisir. Depuis quelques mois maintenant, j'ai créé mon agence de conseil.
Génial. Alors Jean-François, l'e-commerce, tu vois, donc t'as navigué, comme tu dis, t'as un papy dedans. Comment est-ce que tu décrirais l'état de l'e-commerce aujourd'hui et j'aurais, si tu pouvais, nous raconter un peu cet état en France vis-à-vis d'autres pays quelque part, puisque t'as un côté international.
Alors il y a plein de facettes dans cet e-commerce. En fait déjà j'ai le sentiment et ça que c'est à peu près mondial, sauf dans les pays où l'e-commerce est encore peu avancé, mais le sentiment mondial qu'on ne parle plus d'e-commerce, qu'on parle de commerce connecté, de multicanal, d'omnicanal, l'e-commerce c'était plutôt à ses tout débuts où on prenait ça comme un nouveau canal, un nouveau moyen pour la marque de s'exprimer et de vendre. Mais aujourd'hui, en fait, on a une démarche qui est beaucoup plus intégrée. Alors, c'est complètement vrai dans le domaine du retail où il y a des ponts et des renvois entre les différents supports, magasins, web, téléphone, tout ce que l'on veut. Mais même un pur site e-commerce, même un site tel qu'Amazon, je évolue fortement, alors via ses marketplaces et autres, sur du comportement qui vient s'inscrire dans notre vie de tous les jours. Et si on prend l'exemple d'Amazon, qui est encore purement ou quasi purement du digital, avec leur démarche comme Amazon Echo que je teste chez moi, on a bien largement passé l'e-commerce historique.
Il semble, pour moi, on va dire qu'il y a moins deux vitesses dans cette histoire de e-commerce ou commerce en ligne ou multicanal. Il y a la vitesse retail et puis il y a la vitesse des marques. Et second, il y a quand même un phénomène dans l'e-commerce, combien même ils sont pure player, qui reviennent un peu vers le commerce hors ligne. C'est-à-dire, je suis Amazon. Ils ont ouvert leurs deux premières boutiques. Et donc, il y a un retour donc, du e-commerce qui vient plutôt vers le commerce, alors qu'on est encore sur les marques qui sont dans le commerce, qui vont vers l'e-commerce.
Oui, c'est pour ça que je dis qu'on parle peu de, on va plus parler d'e-commerce, mais de commerce connecté ou de d'environnement digital connecté au physique. Pourquoi, à mon sens, une marque comme Amazon et comme quasiment tous les pure players historiques qui sont devenus de gros acteurs ou qui ont réussi à rester de gros acteurs s'intéresse au monde physique ou s'intéresse à venir s'intégrer dans notre vie de tous les jours avec des objets connectés, c'est à mon sens essentiellement pour réchauffer leur marque, réchauffer le contact qu'ils peuvent avoir avec leurs clients. Amazon en est un très bon exemple. C'est une machine de guerre, mais c'est une machine. Si on a envie de faire un portrait chinois d'Amazon, c'est très compliqué de dire est-ce que c'est plutôt une femme, est-ce que c'est plutôt un homme, est-ce qu'il est blond, est-ce qu'il est brun. Alors que une marque historique avec une plateforme de marque, on a plutôt des facilités autour de ça. Et pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'on a on a affaire, pour le cas d'Amazon, un fantastique outil logistique hyper bien exécuté, un fantastique distributeur automatique qui est leur site e-commerce, mais une marque pas assez chaude pour atteindre et être certains domaines que peuvent être la mode, la déco, etc., où on va devoir s'exprimer avec beaucoup plus de sentiments.
Donc Amazon, c'est une marque sans personnalité.
Je pense que la personnalité d'Amazon, elle est énormément à développer. Je pense que on est au stade de la superbe machine.
Alors Jean-François, dans ton nouvelle agence, un des points forts et sur lequel tu as beaucoup d'expérience, c'est sur l'intégration des startups, ou en tout cas le lien entre l'innovation qui provient des startups et le monde en entreprise, et notamment avec ton travail chez Decathlon. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter un exemple ou deux de réussite dans cette intégration? Parce que le sujet, c'est comment est-ce que je peux devenir plus agile? Comment est-ce que je peux être plus innovant? Et comment je peux m'appuyer sur cet écosystème en dehors de ma marque?
Oui. En fait, j'ai créé cette agence parce que j'ai la chance d'avoir vécu les deux mondes, celui du grand groupe à quasiment tous les niveaux, en commençant le chef de projet chez Red Cat, directeur e-commerce, puis à un niveau très corporate du groupe avec tous ces enjeux de transformation, avec des réussites et des échecs à l'époque sur la transformation d'un grand groupe. Et puis travailler dans un monde de start-up, dans ce fonds d'investissement, avec de start-up et d'entreprises en mutation, et d'être capable de me mettre dans les chaussures et dans les bottes de ces différents acteurs. Et ce que j'ai envie d'amener dans l'agence, c'est ce lien entre ces deux mondes, et d'essayer d'aider les groupes à se transformer, d'aider les start-up à réussir, et parfois, par le mariage entre les deux, de créer des belles histoires. Et tu me demandais quelques exemples, réussite ou échec. Déjà, j'étais pas dans l'entreprise Decathlon. Je travaillais avec son fondateur dans son fonds d'investissement. C'est une précision. Pour moi, une des réussites, c'est la réussite clé, c'est la force du projet de la start-up à la base. Mmh. Les démarches qui visent de la part d'un groupe à faire créer, on le voit de plus en plus souvent aussi dans des start-up studios, des start-up ad hoc qu'ils viennent financer sur une problématique qui leur va, sont souvent voués à l'échec. Pourquoi ? Parce que des synergies, ça fonctionne quand on a deux projets forts. Et donc, il faut déjà que la start-up ait un projet extrêmement fort, une vision de devenir un leader mondial de leur service, de leur secteur, et que un partenariat éventuel avec le groupe crée des synergies fortes pour les deux, qui aient du sens et qui leur permettent d'accélérer tous les deux sans se dénaturer. J'ai vu effectivement et vécu des exemples de start-up créées ad hoc où au final, en fait, Oui, on a le projet rêvé par le groupe, mais réussir à créer des synergies entre quelque chose qui est subventionné par le groupe avec des marques qui, elles, ont tous les jours un résultat à aller chercher à l'intérieur du groupe, c'est très compliqué et on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et ça, c'est un vrai problème. L'autre champ où on a souvent des écueils, c'est que le groupe cherche souvent dans le monde des startups à découvrir, à être un peu, à anticiper sa transformation, à comprendre ce nouveau monde, etc. Mais là, il y a une réelle nécessité à travailler avec eux des objectifs bien au-delà de ça. C'est-à-dire que si c'est juste pour flirter avec des startups, s'encanailler avec des startups, et ça ne va rien avoir comme effet sur la transformation dans le cœur business. Par contre, si on a déterminé des champs de faiblesse que l'on voulait travailler dans le groupe, là, on peut commencer à se dire, bah tiens, j'ai besoin de synergie. Ici en innovation produit, ici en produit connecté, ici dans mon acheminement logistique, etc. Là, on peut commencer à trouver des vrais potentiels.
À t'écouter, je me dis que le presque une conséquence de l'idée d'aller chercher de l'innovation à l'extérieur du groupe est transformateur ou transformatrice.
Oui, oui. C'est un début du processus et pour le groupe il ne faut pas sous-estimer que la démarche elle est autant d'aller voir à l'extérieur que de se poser en interne sur ce que l'on souhaite, quelle est notre stratégie derrière cette démarche extérieure. La facette la plus importante pour moi que j'essaye de développer dans mon agence, c'est de prendre toujours et d'abord l'angle humain des choses. Parce qu'au final, si on veut transformer un groupe, une marque, il faut transformer ses hommes. Et c'est pas le fait d'avoir investi, d'avoir créé, d'accompagner une start-up qui change beaucoup ça. Et là où on voit des démarches très très intéressantes, très productives, c'est de garder un esprit pionnier qu'on peut aller piocher dans l'esprit start-up à l'intérieur de marques historiques. Et le fait d'avoir des dirigeants, d'avoir des collaborateurs à potentiel qui rentrent dans ces démarches, que l'on pousse à être en mode projet, en mode pionnier, Decathlon pour le coup fait très bien historiquement d'ailleurs, d'avoir créé ces marques passion, ça permet à Decathlon d'être très innovant. La tente de seconde de Quechua ou les vélos chez Between ne seraient pas aussi fort et innovant si Decathlon était une marque complètement centralisée. Or, Quechua est une marque à part avec son siège à part au pied du Mont Blanc. Tribord, leur marque de l'univers de l'eau, et un magnifique siège à Hendaye avec une petite équipe qui garde cet esprit pionnier. Autre exemple, c'est qu'actuellement, ils sont en train d'ouvrir plein de nouveaux pays. À toute échelle, le Mexique, le Chili, l'Afrique du Sud, à chaque fois en commençant avec un petit pop-up store, en ayant envoyé deux personnes sur place, comme au premier jour de l'aventure de l'entreprise, avec les huit fondateurs, l'équipe des huit personnes qui ont créé le premier magasin.
Alors, j'entends bien, et donc ce que je comprends, c'est qu'avec Decathlon, l'idée était de ne pas dénaturer le start-up ou la start-up qui gardait son indépendance. Mais de l'autre côté, quand j'entends, et certainement toi aussi, que tu es avec d'autres, l'idée c'est quand même d'apprendre, d'intégrer, de pouvoir surfer, puis trouver des synergies. Donc plein de choses internes, corporate, et le sujet de garder à l'extérieur rend difficile cette intégration.
Oui. Dans mes démarches avec les groupes aujourd'hui, un des premiers points, c'est que je vais aller relever les modes de fonctionnement, parce que je suis souvent appelé un petit peu en pompier ou en médecin sur des diagnostics justement du mode de fonctionnement avec les startups ou parfois en prévention justement dans le cadre d'une intégration future. Et mon diagnostic, il commence souvent par des points hyper concrets. À quel point la startup est intégrée dans les processus de l'entreprise, par exemple. Est-ce qu'elle a le droit d'acheter toute seule ses ordinateurs? Est-ce qu'elle est intégrée dans les process de recrutement du groupe? C'est des choses hyper concrètes, mais qui traduisent le mode d'intégration choisi par l'entreprise. Il n'y en a pas de bons, il n'y en a pas de mauvais, mais ces modes d'intégration sont après à confronter aux objectifs que les deux, la start-up et l'entreprise, ont. Si c'est un objectif de diversification, de veille, d'investissement sur l'avenir, l'objet n'est pas trop de les intégrer dans une lourdeur potentielle du groupe, mais plutôt de bien structurer les tuyaux qui vont permettre d'alimenter et d'irriguer le groupe, justement, dans ses innovations, ses veilles, et puis d'avoir un vrai suivi de la valeur générée d'un point de vue capitalistique après sur cet univers d'investissement. Par contre, si l'objet, il est d'aller capter de l'innovation à intégrer, à insuffler même dans le groupe, là, le mode d'intégration, il peut être assez différent, parce qu'en fait, les enjeux sont moins de créer un nouveau leader mondial dans l'une des startups dans lesquelles on est intégré, mais plutôt d'aller chercher les bonnes pièces, les bons pions, voire les bons savoir-faire humains à insuffler dans la grosse machine qu'est le groupe. Et donc derrière, on met en place des dispositifs de fonctionnement, de pilotage, de gouvernance, d'échange, même ça va jusqu'à des supports intranet, etc., pour profiter de ces synergies. Mais à chaque fois, c'est un dispositif quasiment ad hoc.
Tu parlais de l'importance de l'humain en tout ça, et évidemment, oui, J'y crois. D'un, je pensais au rôle que le PDG ou la PDG devrait avoir dans ce dispositif, et de deux, comment et jusqu'à quel point est-il important que l'entrepreneur, qui combien même a un produit alléchant, parfait, combien même son produit va bien, quelle est l'importance des valeurs de cet entrepreneur et donc de l'humain qu'il ou elle amène dans le dispositif?
Je suis le premier persuadé que c'est toujours la première clé. Déjà dans ces mariages entre start-up et groupe, la première des choses, alors ça me paraît évident, mais c'est parfois oublié, c'est effectivement lié aux valeurs. C'est est-ce que l'entrepreneur et son projet entrepreneurial ont des valeurs, des visions communes, compatibles ou au moins compatibles avec celles du groupe. Ont-elles été déjà explicitées, travaillées? Parce que ça, c'est un des points sur lesquels on est parfois amené à travailler, c'est que le groupe a pu travailler historiquement ces sujets-là, en espérant qu'ils n'aient pas été trop cosmétiquement travaillé, on va dire, que ce soit des valeurs vraies, et qu'on puisse les confronter à celles d'une start-up qui, elle, a rarement travaillé ces sujets-là dans le fond, mais avec lesquels il est assez simple de faire ce travail, parce qu'on est au balbutiement d'une entreprise, et quand on est dans le diagnostic, on a très peu de personnes, et les valeurs transparaissent, c'est juste qu'ils n'avaient pas pris ce temps de les poser. Et quand une fois qu'on a posé ça, on est capable de le partager. Et ça, ça nous permet de dire, bon, il va y avoir une affinité, une compatibilité possible. Après, tu as raison de dire quel est le niveau d'implication, de compréhension, de volonté du PDG du groupe et de l'entrepreneur. Parce qu'en fait, ça se joue réellement à ce niveau-là. Bien sûr que le PDG du groupe n'a pas forcément la disponibilité, le temps de travailler tous ces sujets Et que heureusement il y a des directions innovation, des chief digital officers, des gens qui se chargent des accélérateurs pour ces groupes, etc. Bien sûr, mais au final, c'est la rencontre entre deux entrepreneurs qui est importante. Mmh. Et cette rencontre-là, elle doit matcher permettre ces échanges. Et qu'en fait, le groupe est autant à apprendre, à aider le projet entrepreneurial de la start-up que la start-up ait la possibilité d'amener sa voix dans le groupe. On voit de beaux mariages où l'entrepreneur start-up se retrouve régulièrement invité au board, membre d'un conseil stratégique du groupe, parce qu'il a une approche, une personnalité à apporter.
Quand tu parles, j'ai l'impression, enfin je pense aussi à des PDG non entrepreneurs,
oui,
qui sont des hommes et des femmes très intelligents, certes, les grandes écoles peut-être, mais moyennement bonne expérience en tant qu'entrepreneur. La difficulté, donc, là, se pose.
Tout à fait. Moi, je le constate tous les jours. Alors, j'ai la chance, je travaille un peu partout en France, un petit peu à l'étranger, j'ai la chance d'être basé dans le Nord, où il y a une grande culture des entreprises et des groupes patrimoniaux, et de l'entrepreneuriat en tant que tel.
Oh, patronat.
Et on a la chance d'avoir des magnifiques marques et des grands groupes dirigé par des entrepreneurs, mmh, ou des fils d'entrepreneurs dont les gènes ont été réellement développés par des expériences entrepreneuriales avant de prendre ces rênes. Et ça aide beaucoup. Lorsqu'on a affaire à un dirigeant voilà, qui n'a pas créé, qui n'a pas mis à risque son, à un moment donné, son patrimoine personnel pour et on sait, il a beau être hyper compétent, hyper intelligent, y avoir mis toute son énergie, ce que j'ai pu faire personnellement, même moi, dans des expériences préalables, où j'avais clairement l'impression d'être entrepreneur. Depuis que je le suis réellement dans le cadre de cette création d'agence, mon mindset a changé. Et donc effectivement, c'est plus compliqué avec des dirigeants non entrepreneurs. Et là, en fait, le rôle de l'accompagnement a encore un peu plus son sens, parce que je viens autant coach du dirigeant que du start-upper.
De bonnes choses là. Alors, il y a un point qui est intéressant, c'est de regarder sur les grands groupes, comment ils mènent cette idée d'aller chercher cette innovation, l'agilité et des rapports, relations avec les startups. Donc, il y a beaucoup de modèles qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que tu as un moyen de faire du mapping, comment est-ce que tu ferais une catégorisation des moyens de faire et quelque part, quelle serait la clé de lecture pour un groupe pour dire, voilà, c'est plutôt par cet axe-là que je devrais aller, la manière d'Hécatlan ou la manière de quelqu'un d'autre?
Alors, déjà, en mapping, alors il y a effectivement, on est en pleine ébullition sur toutes ces démarches aujourd'hui qui mélangent les démarches d'innovation, le mariage avec les startups, les méthodologies projets, etc. On est dans un grand mariage de tout cela. Et en ressortent quelques grandes tendances qui peuvent être d'un côté un groupe qui choisit de pousser l'intrapreneuriat. Donc mes cadres à potentiel, j'ai envie qu'ils se sentent entrepreneurs à l'intérieur du groupe. Donc comment je réinvente cette notion de projet interne en leur donnant le plus possible les moyens de se sentir entrepreneurs. Je dis bien le plus possible, il y a toujours des limites derrière ça et c'est quasiment les mêmes que celles que nous venons d'évoquer au sujet des dirigeants. Mais aborder un projet l'ouverture d'un nouveau pays, le lancement d'un nouveau produit, de la manière d'une start-up, c'est une démarche qui permet à l'entreprise de se réinventer en décloisonnant, en poussant des synergies entre les métiers, en laissant les gens créer leur équipe et venir innover. Ça libère énormément, et les responsabiliser surtout, ça libère énormément d'énergie. Ça, c'est un premier mode. Deuxième mode, c'est effectivement, je crée un fonds d'investissement, j'investis et je me dote en fait d'une vigie qui me permet sur un secteur donné. On voit ça pas mal, par exemple dans le monde bancaire actuellement. Je me dote de cette vigie pour être sûr de pas rater une innovation. Cette vigie, après, elle peut avoir deux sens. Soit elle a un sens financier, j'aurais mené de bons investissements, ça diversifie les activités de mon groupe. Soit elle peut avoir un sens rupture pour éviter le phénomène Kodak se dire ben voilà, les futures ruptures liées à un métier. On voit ça, pourquoi je parle du monde de la finance, ils s'intéressent énormément au sujet de la big data ou de la blockchain, où ils savent que il y a des ruptures qui risquent fortement d'arriver par là. Après, on a plein de modes hybrides entre ces deux modes là. On a des gens qui utilisent des start-up studios, des incubateurs accélérateurs externes qui demandent à créer des projets, qui font des appels à candidature pour créer des projets, qui envoient leur propre cadre dans ce mode-là. Dernier modèle, c'est le modèle plutôt de la formation. C'est et ça, on le voit aussi beaucoup arriver. Je vais former mes cadres ou mes dirigeants au code, on voit ça dans les démarches le wagon, etc. Ou former mes dirigeants ou mes cadres à des méthodologies agiles, le MVP des startups, etc. Là, il faut éviter un peu l'effet tarte à la crème du je vais devenir tout agile du jour au lendemain dans une marque ou un groupe qui a plus de 20 ou 30 ans. Il faut savoir que le groupe a la chance d'avoir 20 ou 30 ans, donc une histoire, mais l'histoire, on peut pas la réécrire du jour au lendemain. Donc là, je crois plus à des chantiers de transformation et à écrire.
Super. Certainement, il y a plein d'autres modèles et trucs. Mais je voulais juste terminer sur un point sur le e-commerce, puisque enfin, quand bien même on ne parle pas de e-commerce, oui, c'est quand même important et le canal existe. Pour certains, c'est le seul canal, c'est-à-dire les pure players. Pour d'autres, à la catalogue, c'est du papier plus du e-commerce. Et pour certains grands groupes en France, qui habitent au nord de la France, la bataille est sensiblement rude. Et je pense là à Trois Suisses, à la Redoute et compagnie. Pour toi, quelles sont les clés pour réussir l'e-commerce aujourd'hui?
J'aurais envie de te dire, ce sont les clés du commerce. Et moi qui ai quitté ce monde de la vente à distance il y a plus de 6 ans maintenant, le recul que j'ai pu prendre sur ce métier me pousse à dire aujourd'hui qu'en fait, c'est pas tant une problématique technique d'être les champions du site web, d'avoir une bonne plateforme, d'avoir une bonne marketplace, etc. Il y a un niveau qui est aujourd'hui le must-have, qui est j'ai un bon site, j'ai une bonne logistique, j'ai une bonne qualité. Ce must-have, il est déjà extrêmement difficile à atteindre parce que le must-have, le benchmark aujourd'hui, c'est Amazon. Et Amazon, en plus, ce must-have, il évolue tous les jours. Et Amazon, il nous livre déjà le dimanche, il va nous livrer en une heure. Il est tous les jours chez moi. Donc, la barre est déjà devenue de plus en plus haute. Mais ça n'est que le must-have. Pour moi, la clé de la clé, c'est l'identité de la marque. Et là, on ne parle pas d'aspect d'e-commerce ou de ce que l'on veut, c'est qui je suis et en quoi je garde une identité, une différence avec les autres. Et je pense, avec ce recul, que des marques comme Trois Suisses et d'autres se sont perdues. À un moment donné où le business était compliqué, à un moment donné où il y a eu de plus en plus de concurrents, à un moment donné où l'innovation est arrivée, l'e-commerce, même le commerce retail, c'est certainement d'ailleurs beaucoup plus le retail de proximité avec le développement des retail parks qui font que la cliente typique de la vente à distance historique de Trois Suisses Redoute, la dame de 50 ans dans un milieu rural, qui est la cliente historique de ce monde, qui avait accès à tout, la mode, la décoration, la cuisine, etc., grâce à ces catalogues, bah, du jour au lendemain, il y a des retail parks avec toutes les chaînes de distribution qui sont arrivées à moins de 20 km, accessibles avec la voiture. Et donc, l'utilité de ces marques-là est devenue beaucoup moindre. Mais retravailler sur qui je suis, Trois Suisses, historiquement, marque avec une très forte proximité client, appelée le chouchou, je pense qu'elles ont perdu, et c'est le cas aussi à la Redoute ou ailleurs, leur âme et un savoir-faire dans bien vendre. Et donc le débat n'était pas forcément de dire ce qu'elles ont toutes fait, j'ouvre une marketplace, je développe mes gammes produits, etc., etc. C'était aussi de rester complètement sur son sujet. Je l'ai vécu moi chez Verbedé, pour terminer. À un moment donné où la concurrence était plus dure, Verbedé n'est jamais aussi fort que quand il est clairement sur ses positions historiques de « je suis complice des mamans au service des enfants ». À un moment donné, tu as des grands acteurs, des Okaidi, des Tape à l'œil, des IKKS qui arrivent, qui bousculent un petit peu le marché. Quand tu n'es pas assez fortement sur tes appuis, bah tu te dis, eh bien, on produit, je vais peut-être m'inspirer de ce qu'ils font, tiens, ils font une plateforme comme ça, je vais faire une plateforme comme ça, etc. Tu deviens un suiveur et tu as oublié qui tu étais. Quelle est la différence? En quoi la Redoute... qui est la Redoute? Qu'est-ce que ça me vend de différent des autres? Tant que je ne sais pas répondre à ça, bah je ne suis pas une marque qui existe.
Évidemment, Verbedé, c'est une belle marque, ça c'est certain, et j'ai toujours senti dans l'équipe une notion d'appartenance et quelque chose en commun. Moi, pour revenir à ce que tu avais dit au début, on va terminer là-dessus, c'est qu'au tout début, tu as dit ben, « Amazon, c'est une marque sans âme, enfin sans personnalité, une machine de guerre ». Et donc, est-ce que cette réponse que tu viens de me donner, que c'est une question d'identité de marque, est en opposition avec Amazon, en fait? Ou est-ce que c'est quelque chose qui existerait en abstraction?
En fait, moi, j'y vois deux choses. C'est que Amazon va chercher forcément à réchauffer cette marque. Je vais dire, l'un des trucs qui, historiquement, est le plus chaud chez Amazon, c'est le sourire qui est sur le carton de livraison.
Ouais.
Mais c'est déjà super. Il y a certaines marques chaudes qui ont oublié de le faire, de communiquer comme ça. Mais Amazon est en train de rattraper ce retard-là en ouvrant des stores, en ayant Alexa d'Amazon Echo avec qui je peux discuter toute la journée à la maison. Ça devient une personne. Mais je pense que là, il y a un champ, peut-être une faiblesse, mais en tout cas, moi, je le vois plutôt comme une opportunité pour toutes les autres marques qui essayent de lutter contre Amazon, de se renforcer encore plus fort là-dessus. C'est que, oui, il y a un must-have et on va peut-être pas réussir à faire la course au service et à la logistique que fait Amazon, mais la proximité que j'ai avec mes clients, la connaissance que j'ai avec mes clients, la relation humaine que je peux développer avec eux, elle a peut-être encore beaucoup, beaucoup plus d'importance qu'avant. Je crois beaucoup, en fait, au fait que au plus il y a de digital, et c'est le cas, et de technologie qui débarque dans nos métiers, dans nos vies, au plus, à l'opposé, on est exigeant et on a envie de proximité humaine. Mmh. Et les deux sont pas incompatibles, c'est juste qu'on est en train de pousser les extrêmes. Mmh. Et donc, les marques historiques ont intérêt à revisiter les endroits où il y avait du contact humain, qu'ils ont été amenés à optimiser, à rationaliser, et là je pense au magasin, je pense au call center, je pense à plein de choses comme ça, et pour investir. Il y a un exemple qui me passe en tête pendant que je dis ça, c'est McDo. McDo aujourd'hui, ils investissent sur des bornes et on ne commande plus son plateau à quelqu'un. Par contre, on a quelqu'un qui vient nous apporter le plateau à table. Pour moi, c'est un bon exemple. Il y a encore plein de choses à parfaire dans ce parcours client-là, mais c'est un bon exemple de ramener de la valeur ajoutée humaine grâce à de l'optimisation digitale. Mmh. C'est un peu plus sympa d'avoir quelqu'un qui m'amène le plateau et qui demain va peut-être pouvoir me parler un peu plus que de juste passer ma commande.
Je conclurai pour dire l'humain est stratégique. Alors Jean-François, comment est-ce que quelqu'un pourrait te contacter, te suivre? Quel serait le meilleur moyen technologiquement, on va dire, pour rester en contact humain?
Alors, mon email jfd@3hd, qui est le nom de mon agence, .team, JFD comme Jean-François Dino. Vous avez ma page Facebook sur laquelle je partage très régulièrement du contenu qui est 3HD.
Super.
Consulting.
Ben génial, je mettrai tout ça et c'était un plaisir de t'avoir sur le show. Je te souhaite bon courage et on se suit, ok?
À bientôt.
Ciao.
Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement et créateur du Hub Forum, Jacques Lorne de Laura Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoop.it, Gilles Barbier, PDG de Dimaou, ou encore Eric Blau, PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français, MDIALFR, ou bien sur MDIAL, où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, THEMYNDSET, où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez en train de l'écouter.
You've got questions, we've got answers. Business leadership, ownership, and sales can be challenging. Tune into the Accelerate Your Business Growth podcast to learn from the world's experts. Join me, your host, Diane Helbig, as I chat with people who have expertise in various areas of business. You'll enjoy the lively conversations that are focused on providing you with the ideas, tips, and suggestions you need to realize greater success. Get what you need for your business when you need it from the people who have the answers. Accelerate Your Business Growth is part of the Evergreen Podcast Network and is available on Apple, Spotify, or wherever you listen to your favorite podcasts.